Voici une question qui a probablement déjà traversé votre pensée. Est-il possible d'avoir une relation intime avec le Seigneur Jésus? Les Saintes Écritures vont nous donner une réponse qui pourra vous transformer aujourd'hui même à l'émission « À travers la Bible ».
Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone sans frais au 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647.
Bonjour, ici Caro. J'aime tellement les sujets qu'on va aborder aujourd'hui suite aux questions qu'on va poser à la parole de Dieu. L'épître de Paul aux Romains est vraiment riche en enseignements pour nous. Voici nos questions. Est-ce que Dieu nous force à venir à lui? Est-ce qu'il nous force à le servir? Devons-nous être appelés de Dieu pour qu'il nous utilise dans son œuvre? Qu'est-ce que ça signifie d'être mis à part pour Dieu? Qui a créé l'Évangile? Est-il possible que Jésus soit parfaitement Dieu et parfaitement homme? Qu'est-ce qui prouve que Jésus est le Fils de Dieu? Est-il possible d'avoir une relation intime avec le Seigneur Jésus? Y a-t-il des gens qui seront condamnés à la perdition éternelle un jour? Demeurez à l'écoute. Le Seigneur va enrichir nos vies à travers l'enseignement qu'il va nous donner par la bouche du pasteur Régent Joly. Mais premièrement, prions. Ô Seigneur, on a besoin de toi. On aime ta parole. C'est pourquoi on t'écoute. Parle-nous, Seigneur. Amen. À toi, Régent.
Merci beaucoup, Caro. À la dernière émission, nous avons introduit l'Épître aux Romains. Nous avons vu que l'apôtre Paul a fondé l'Église à distance. Par cela, nous entendons que l'Église de Rome fut fondée par des personnes qui se sont converties sous le ministère de Paul et des autres apôtres lors de voyages et qui ont déménagé à Rome après leur conversion. L'Église a vu le jour avant qu'un apôtre se rende à Rome. Nous avons aussi vu que l'Épître aux Romains est l'un des livres le plus riche de la Bible, et certainement l'Épître la plus profonde écrite par Paul. Elle traite de la justification par la foi. Le premier chapitre de l'Épître aborde les motifs de Paul pour aller à Rome, la définition de l'Évangile et la condition pécheresse de l'homme qui nécessite l'Évangile. Ce chapitre nous donne le tempo du livre. L'Épître nous enseigne aussi que l'homme est dans un état de dépravation totale et qu'il est perdu. Il a besoin de recevoir la justice de Dieu, car il n'en a pas une qui lui est propre. Ce document fut écrit afin de préserver la jeune Église de Rome contre l'hérésie. Les versets 16 et 17 du premier chapitre sont considérés les versets clés de l'Épître. « Car je n'ai point honte de l'Évangile, c'est une puissance de Dieu, pour le salut de quiconque croit, du Juif premièrement, puis du Grec, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. » Ces deux versets méritent d'être mémorisés et chaque mot des versets devrait être médité. Chers amis, débutons la lecture de cette nouvelle lettre. L'Épître aux Romains, chapitre 1er, verset 1er. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'Évangile de Dieu. Le nom de Paul vient du mot latin « Paulus », qui signifie « petit ». Il était Saul de Tarse, mais il était aussi appelé Paul, tel que mentionné dans le livre des Actes. Actes, chapitre 13, verset 9. Dieu ne force personne à le servir. Paul se présente immédiatement aux Romains comme un serviteur, un doulos du Seigneur Jésus-Christ. Un esclave du Seigneur. C'est volontairement qu'il a pris la position de serviteur. Le Seigneur Jésus nous aime et il s'est sacrifié pour nous. mais il ne fait jamais de nous ses esclaves. C'est volontairement que vous venez à lui et acceptez de le servir. Le Seigneur ne force jamais personne à son service. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble sa couvée sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. L'Évangile selon Luc, chapitre 13, verset 34. À une autre occasion, il a dit, « Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie ?» Jean, chapitre 5, verset 40. Ce n'est pas une obligation, mais un privilège merveilleux de devenir un serviteur du Seigneur Jésus. Mais vous devez accepter de l'être volontairement. Le Seigneur Jésus ne force personne. Sur le chemin de Damas, le Seigneur a dit à Paul, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Paul a répondu, « Qui es-tu, Seigneur ?» Le Seigneur dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. » C'est à ce moment que Paul a connu le Seigneur Jésus comme sauveur. Ensuite, Paul posa une autre question. « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Actes, chapitre 9, versets 4 à 6. C'est là qu'il se mit au service du Seigneur Jésus. « Que veux-tu que je fasse ?» Dieu emploie seulement des serviteurs qu'il appelle. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre. Voilà ce que le texte précise. Paul fut un apôtre appelé. Cela signifie que ce fut la décision de Dieu, et non la sienne, de devenir apôtre. Paul s'est premièrement fait un serviteur du Seigneur Jésus, et maintenant, il est un apôtre appelé, un témoin pour le Seigneur Jésus. Dieu emploie seulement les serviteurs qu'il appelle. Il y a trop de personnes dans le ministère que Dieu n'a pas appelé. Paul pouvait dire, « Et malheur à moi, si je n'annonce pas l'Évangile. » 1 Corinthiens, chapitre 9, verset 16. Jérémie fut appelé au ministère de prophète alors qu'il n'était qu'un enfant. Jérémie, chapitre 1, verset 4 à 10. Au sujet des faux prophètes, Dieu a déclaré, « Je n'ai point envoyé ces prophètes, et ils ont couru. Je ne leur ai point parlé, et ils ont prophétisé. » Jérémie, chapitre 23, verset 21. Jérémie était un prophète appelé de Dieu, et Paul, un apôtre appelé aussi de Dieu. Paul dit qu'il est un apôtre, c'est-à-dire un envoyé. Le Seigneur a dit que l'apôtre, celui qui est envoyé, n'est pas plus grand que celui qui l'envoie. Le mot « apôtre » est aussi employé dans Philippiens, chapitre 2, verset 25. Dans le Nouveau Testament, le mot prend un sens technique. Un apôtre est une personne choisie par le Seigneur pour proclamer l'Évangile, la bonne nouvelle. Il doit avoir vu le Seigneur Jésus ressuscité. Le Seigneur est apparu à Paul après sa résurrection. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi, comme à l'avorton. 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 8. Puis Paul pose une question rhétorique. Ne suis-je pas libre? Ne suis-je pas apôtre? N'ai-je pas vu Jésus notre Seigneur? 1 Corinthiens, chapitre 9, verset 1. Le fait que Paul pouvait parler en langue prouve aussi son apostolat. Il a affirmé qu'il pouvait parler d'autres langues. Je pense que lorsque Paul voyageait en Galatie, par exemple, dans le territoire longeant la mer Égée, il visitait des villes et des tribus qui parlaient toutes sortes de langues, dont la plupart lui étaient inconnues. Paul pouvait parler la langue de chaque tribu qu'il visitait. Il avait le don apostolique des langues. Il avait aussi le don de guérir, un don qui n'est plus disponible aujourd'hui. Lorsque Dieu guérit une personne de nos jours, il le fait directement, sans intermédiaire. Je présente mon cas au médecin céleste en personne, sans passer par une interne. Dieu guérit encore aujourd'hui, je le crois, mais il ne donne plus à des hommes le pouvoir de le faire. Cependant, Paul avait le don de guérir parce qu'il était un apôtre. Il a ressuscité des personnes mortes. Paul et Pierre ont effectué des résurrections, car ils étaient des apôtres. Maintenant, Paul est un serviteur de Jésus-Christ. Il est un apôtre appelé et il est mis à part pour annoncer l'Évangile de Dieu. Notez que Paul est mis à part pour et non mis à part de. Il fut mis à part pour l'Évangile de Dieu. Et vous, chers amis, donnez-vous soif pour le Seigneur Jésus? Paul était un chrétien mis à part, mais pas dans le sens d'isoler, mais plutôt dans le sens d'être réservé pour. Lorsque j'entends certaines personnes parler, j'ai l'impression qu'elles font de l'effeuillage spirituel. Entre parenthèses, striptease spirituel. Elles disent qu'elles ne font plus ceci ou qu'elles ne font plus cela, mes amis. Dans quel but? Pour qui êtes-vous réservés ou mis à part? Paul nous dit que les Thessaloniciens se sont tournés des idoles pour aller vers le Seigneur Jésus. Ils ne se sont pas levés au cours d'une assemblée pour affirmer qu'ils n'allaient plus au temple d'Apollon. Ce n'était pas nécessaire de faire une telle affirmation, car ils avaient été mis à part pour le Seigneur Jésus. Un chrétien qui est isolé de choses sans être mis à part pour le Seigneur Jésus a une vie non productive. Il sera sans joie. Il développera un esprit critique et parfois cynique. Lorsque une personne épouse quelqu'un, cette personne se réserve et mise à part pour son ou sa conjointe. Imaginez un marié qui, le premier soir de la lune de miel, dit à son épouse, « J'ai une copine dans cette ville, je vais la visiter. » Certains chrétiens pratiquent cette sorte de mise à part. Si vous êtes mis à part pour le Seigneur Jésus, vous aurez une vie attrayante plutôt qu'une qui éloigne les gens. Une petite fille chinoise a dit un jour, « Les chrétiens sont du sel. Le sel vous donne soif. » Pensez à ces propos, mes amis. Donnez-vous soif pour le Seigneur Jésus dans votre entourage, l'eau qui jaillit dans la vie éternelle? Aphorizo est le mot grec traduit par « mise à part » dans nos textes. Ce mot grec est la racine du mot « horizon ». Lorsque nous sommes mis à part pour le Seigneur Jésus, nos horizons sont élargis. Lorsque j'étais un petit enfant, je m'amusais avec des jouets, pour les tout-petits. J'ai vieilli un peu et je me suis intéressé au hockey et au baseball. J'avais de nouveaux horizons. Un jour, je vins au Seigneur Jésus et mes horizons s'élargirent davantage. Mes amis, lorsque nous venons au Seigneur Jésus, nous ne devenons pas des personnes étroites et isolées. Nos horizons s'élargissent pour y inclure de merveilleuses expériences passées avec Dieu. C'est ce que Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 13, verset 11. « Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître de ce qui était de l'enfant. » L'Évangile vient de Dieu, chers amis. Notez que Paul est mis à part pour annoncer l'Évangile de Dieu. Autrement dit, ce n'est pas l'homme qui a inventé l'Évangile. Lorsque vous et moi sommes entrés en scène, l'Évangile existait depuis environ 2000 ans. Le Seigneur Jésus n'a pas attendu notre arrivée pour voir si nous avions un meilleur plan de salut. L'Évangile est le plan de Dieu. C'est à prendre ou à laisser. L'Évangile fut créé par Dieu. Elle est de source divine. Verset 2. Qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les saintes Écritures. L'Évangile n'est pas une invention récente. La venue de l'Évangile fut annoncée par les prophètes de l'Ancien Testament. Son message se résume ainsi. Dieu aime l'humanité et il lui propose un moyen de salut. L'Évangile nous fait entrer en relation d'amour avec Dieu. N'est-ce pas merveilleux? Les versets 2 à 6 définissent l'Évangile. Premièrement, elle concerne le Seigneur Jésus-Christ, verset 3, et qui concerne son Fils, né de la postérité de David selon la chair. L'expression qui concerne traduit la petite préposition grecque « peri ». Nous retrouvons cette préposition dans « périscope » et « périmètre ». Elle veut dire « ce qui encercle ». L'Évangile traite de Jésus-Christ et de ce qu'il a fait. Il concerne son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous avons le titre complet de Jésus-Christ dans ces versets. Il est le Fils de Dieu et Jésus-Christ, notre Seigneur. Voilà son nom merveilleux. Des personnes nous disent que nous avons besoin de la religion de Jésus-Christ aujourd'hui, mes amis. Il n'avait pas de religion. Il n'en avait pas besoin car il était Dieu. Ce que nous avons besoin aujourd'hui, c'est d'une religion au sujet du Seigneur Jésus-Christ, qui encercle Jésus et qui est au sujet de ce qu'a fait Jésus. Jésus-Christ est Dieu. Il ne peut adorer, mais il doit être adoré. Certains s'objectent en disant, « Mais il a prié. » Oui, il l'a fait, parce qu'il a pris la place de l'humanité. Il a prié parce qu'il convenait de le faire, par exemple, avant de ressusciter Lazare. Jésus a prié ainsi. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Jean chapitre 11, versets 41 et 42. Mes amis, Jésus a prié pour affermir notre foi, mais il est le Seigneur Jésus-Christ. Il est Dieu. Notez aussi qu'il est de la postérité de David selon la chair. Nous voyons ici l'humanité de Jésus. Il est né d'une vierge, car il est déclaré Fils de Dieu avec puissance. Verset 4. Et déclaré Fils de Dieu avec puissance, selon l'Esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ, notre Seigneur. Voyez-vous, ce n'est pas la résurrection qui a fait de Jésus le Fils de Dieu. La résurrection a démontré qui il était. Jésus est parfaitement Dieu et parfaitement homme. Le mot « déclaré » est aussi tiré du mot grec « horizo », dont nous avons déjà parlé. Lorsque notre horizon s'élargit, nous voyons qu'il est le Fils de Dieu. Donc, nous sommes devant une personne parfaitement homme et parfaitement Dieu, tel qu'énoncé par les premiers credos de l'Église. Le credo n'a fait qu'énoncer clairement ce que Paul a enseigné. L'humanité de Jésus-Christ n'enlève rien à sa divinité, et la divinité de Jésus-Christ n'ajoute rien à son humanité. Il est déclaré Fils de Dieu selon l'Esprit de sainteté. Nous avons ici une référence au Saint-Esprit. Nous voyons aussi la Trinité dans ces quelques versets. La résurrection prouve que Jésus est le Fils de Dieu. Notez que Jésus est déclaré Fils de Dieu par sa résurrection d'entre les morts. La résurrection est la preuve que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Dans la Bible, le Seigneur Jésus est présenté dans la puissance de sa résurrection. Premièrement, il nous est présenté alors qu'il est dans la chair, méprisé et rejeté par les hommes. Nous le voyons dans des moments de faiblesse physique, alors qu'il s'arrête à un puits pour se reposer, et nous le voyons dormir dans une barque lors d'une tempête. Finalement, il subit l'humiliation et l'ignominie de la crucifixion. Quoiqu'il fût un homme de douleur, habitué à la souffrance, un jour il ressuscita d'entre les morts. Sa résurrection prouve qu'il disait vrai en affirmant « Vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. » Jean chapitre 8, verset 23. Jésus ne marche plus sur les routes d'Israël. Il est ressuscité des morts par la puissance de Dieu. Sa résurrection prouve qu'il est né d'une vierge, sans péché. Il est déclaré fils de Dieu avec puissance. Êtes-vous en communion intime avec le Seigneur Jésus vivant? Nous remarquons une autre grande vérité dans ces versets. Le Seigneur Jésus est ressuscité et il est présentement assis à la droite de Dieu dans les cieux. Il intercède pour les croyants afin qu'il ait la puissance et le réconfort dont ils ont besoin. Voyez-vous, chers amis, il y a un homme qui est dans toute sa gloire, mais l'Église le perd malheureusement souvent de vue. Nous devons être conscients de sa présence au ciel pour intercéder pour nous. Êtes-vous en communion intime avec le Seigneur Jésus vivant? De plus, la résurrection du Seigneur Jésus nous assure qu'il reviendra sur terre à titre de roi des rois et de seigneur des seigneurs. Il écrasera le péché et il règnera avec justice sur la terre. Il jugera l'humanité, comme Paul l'a annoncé au philosophe athénien. Ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils ont à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Actes chapitre 17, versets 29 à 31. C'est un fait solennel. Parce que le Seigneur Jésus est ressuscité des morts, nous nous tiendrons un jour devant Dieu pour être jugés. Allez-vous tenir devant Jésus pour vous entendre prononcer non coupable parce que vous avez mis votre confiance en lui comme sauveur? Ou devrez-vous porter vous-même la condamnation qu'il vous imposera comme votre juge? Si vous n'avez pas reçu Jésus comme sauveur, vous serez forcément condamné. Vous ne pouvez pas vous tenir devant lui en vous appuyant sur votre propre justice. Vous serez condamné à la perdition éternelle, à moins que le Seigneur Jésus soit votre sauveur personnel. Chers amis, laissez-moi vous poser cette question. L'avez-vous reçu? La résurrection garantit que nous passerons en jugement un jour. Et le seul moyen d'éviter ce jugement, c'est d'accepter Christ comme sauveur personnel. Mes amis, j'aimerais revenir sur un point abordé au début de cette émission. Lorsque nous œuvrons pour le Seigneur, il est très important que nous ayons reçu l'appel du Seigneur. Si nous nous avançons pour notre gloire personnelle ou en espérant remplir un besoin de reconnaissance et d'admiration des autres, nous nous enlignons pour être misérables. Oui, misérables. Dieu n'emploie que ceux qui l'appellent et nous ne pouvons pas lui forcer la main. Préparons-nous pour la prochaine émission. Romains chapitre 1, versets 2 à 13.
Merci, Régent. On a bien vu aujourd'hui que ce n'est pas Paul qui a décidé de devenir apôtre, mais que c'est Dieu qui l'a appelé à ce ministère. Régent a mentionné qu'il est très important de recevoir un appel du Seigneur avant d'œuvrer pour lui. Il y a des gens qui s'avancent pour leur gloire personnelle ou dans le but de remplir un besoin de reconnaissance et d'admiration de la part des autres et qui finissent par être vraiment misérables. J'ai bien aimé l'exemple du jeune chrétien qui voulait aller en Afrique en tant que missionnaire, mais qui n'avait pas reçu l'appel de Dieu pour le faire, et ça s'est mal terminé. On voit encore ça aujourd'hui, dans nos églises. Ceux qui ne sont pas appelés de Dieu pour accomplir l'œuvre qu'ils ont à cœur sont bien malheureux. Ils sont constamment frustrés, alors qu'il pourrait être si heureux s'il prenait simplement le temps d'écouter la voix de Dieu à travers la prière, la lecture, la méditation de sa parole, et aussi à travers des frères et sœurs qui ont de la sagesse et peuvent voir les dons que Dieu leur a accordés. Il y a un frère à mon église qui fréquentait une autre église assez loin de chez nous. Il avait un très bon emploi et gagnait un gros salaire. Mais Dieu lui a montré clairement, ainsi qu'à son épouse, qu'il était appelé à un ministère au sein de notre église, auprès des jeunes et auprès des jeunes couples. Et maintenant, on peut voir tous les fruits de son ministère. Beaucoup de personnes ont reçu Jésus comme Sauveur et Seigneur par le biais de son ministère. Et un grand nombre de jeunes qui sont suivis par lui étudient maintenant dans le but d'exercer eux-mêmes divers ministères dans l'Église. Gloire à Dieu! Mon ami, as-tu un désir ardent de le servir, de servir ce grand Dieu? Est-ce que tu te demandes ce qu'il veut que tu accomplisses pour lui? Je t'encourage à prier, à demander la direction de Dieu pour ta vie, à scruter les Saintes Écritures et à demander conseil à des chrétiens matures avant de prendre une décision. Et en attendant, assure-toi que ton cœur tout entier soit à Dieu et fais toutes les choses, aussi petites soient-elles, que Dieu mettra sur ton chemin. Et tu vas découvrir ce que Dieu a en réserve pour toi. Quelle est l'œuvre qu'il a préparée d'avance pour toi? Ça, c'est merveilleux. Et toi, mon ami, est-ce que tu appartiens au Seigneur? As-tu reçu le don gratuit de la vie éternelle? Y a-t-il un moment dans ta vie où tu es devenu un enfant de Dieu? Tu sais, on n'est pas automatiquement un enfant de Dieu de par notre naissance. On devient un enfant de Dieu. Il est écrit dans l'Évangile de Jean, au premier chapitre, au verset 12, « Qu'à tous ceux qui ont reçu la parole, qui est Jésus, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. » Tu peux devenir un enfant de Dieu en ce moment, si tu mets ta confiance totale dans le nom de Jésus, le Fils de Dieu, Dieu fait homme, Jésus qui est mort sur la croix pour payer la dette de ton péché. Reconnais que tu es un pécheur perdu. Repens-toi. Change de direction à l'égard du péché. Reconnais que tu es un pécheur perdu. Et demande au Seigneur de te pardonner, de te sauver, de te donner la vie éternelle. Ses bras sont grands ouverts devant toi présentement. Il veut t'accueillir, il veut prendre tes douleurs, tes chagrins. Et non seulement il veut te consoler, mais il veut te faire ce don gratuit, le don de la vie éternelle.
Chers amis, les gens nous posent souvent cette question, Caro. Qui sommes-nous?
Mais qui es-tu, Réjean?
Mais qui es-tu, Caro? Non, mais quand même, devons répondre à la question.
J'aimerais savoir, j'aimerais que tu expliques à nos auditeurs qui tu es. Moi, je pourrais peut-être leur expliquer, mais toi, tu le sais encore plus. Tu connais tout ton vécu.
Tout d'abord, j'ai fait des études en carrière radiophonique et j'ai exercé ce métier pendant de nombreuses années. Plus d'une décennie.
Oui.
Ensuite, j'ai eu un appel divin, l'appel de Dieu, d'aller étudier sa parole. Et pendant plus de 4 ans, j'ai fait des études en théologie.
Maintenant, nos auditeurs en bénéficient.
Et grâce, il va sans dire, à la présence de Dieu dans nos cœurs, dans notre vie.
C'est merveilleux.
Nous sommes des gens qui sont nés de nouveau, selon les Saintes Écritures.
Ouais.
Des chrétiens évangéliques.
Oh là là.
Des gens qui croient que les Saintes Écritures ont encore quelque chose de très important pour notre vie.
C'est la vérité. Voici comment vous pouvez nous contacter par téléphone.
1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647, via courriel.
www.radioespoir.ca ou à notre adresse postale.
Radio Espoir, casier postal 34-143, Charlebourg, province de Québec, G1G-6P2. À demain.
Bye bye. Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.